territoire possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bienvenue au village de l'eau.
Nous, on a conçu ce village et on l'a accueilli parce que pour nous, c'était un espace de démocratie, d'échange, de rencontre, formation individuelle et collective.
Sarah Klingler, première adjointe à la ville de Mel.
À la fin de cette semaine, on est aussi pleinement heureux et rassurés. L'intérêt qu'on y voyait pour notre commune de vous accueillir est pleinement rempli. Partage d'expériences en formation, en information, en circulation, en rencontre, en création de liens entre des personnes, entre des structures, des organisations. Ça a contribué à poser les graines, à laisser germer d'autres modes d'action, d'autres formes d'engagement, d'autres prises de conscience. Pour nous, l'éducation populaire, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on crée des espaces d'émancipation individuelle au service d'un enjeu de transformation sociale et qui vont nous aider tous ensemble au fait de vivre mieux demain.
Dimanche 21 juillet 2024, Saint-Martin-les-Mels, à l'heure du bilan pour tous les collectifs, partis et assos qui ont contribué à l'extraordinaire réussite du village de l'eau, événement officiellement porté par le syndicat Sud Solidaire et l'association ATTAC, semaine organisée par Bassine Non Merci, les Soulèvements de la Terre et une multitude d'autres collectifs militants. Formidable succès, notamment salué par Benoît Biteau, paysan et député écologiste de Charente-Maritime.
Je suis admiratif de ces jeunes que certains présentent comme une menace pour l'avenir de la société et qui en vérité, parce que c'est anxiogène ce qui se passe, parce que le dérèglement climatique, parce que l'effondrement de la biodiversité, parce que les ressources comme l'eau, l'air sont menacées par ce qu'on a fait depuis trop longtemps, eh bien parce qu'ils sont anxieux, sont surtout créatifs. Et donc je veux qu'on salue ces mouvements qui permettent de réussir des rassemblements comme cela.
Salut les amis, c'est JBD pour ce nouvel épisode de cette saga Village de l'eau à télécharger sur notre site polemix-et-la-voix-off.com. Et aujourd'hui, suite du bilan et déclaration sur la grande scène.
Alors maintenant, je vais appeler les différentes commissions à rejoindre la grande scène. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de commissions, un énorme travail qui a été fait par des centaines de personnes, centaines de bénévoles. On va vous présenter de façon à ce que vous puissiez avoir conscience de l'entièreté, de la diversité des choses qui étaient proposées sur le village de l'eau, à l'extérieur du village de l'eau, que vous preniez conscience un peu du processus. Je passe au pôle soins.
Ouais, bonjour tout le monde. On vous parle au nom de la base soins. La base soins, c'est plusieurs équipes qui se réunissent depuis de nombreux mois pour discuter avec la coordonnée générale de l'événement et mettre au centre la manière dont le soin peut prendre place dans nos luttes. On est hyper heureuse de vous dire que nos équipes, qui sont la formation militante et aussi la veille qui a fait les maraudes, on a la médic et la légale qui étaient aussi bien sur le village que les actions, le soutien psycho-émo, la médiation, les loutres, faille sexism et la bambinerie, on a réalisé un gros travail de mise en commun de nos forces pour diffuser du mieux possible une culture du soin dans nos luttes et prendre en charge les personnes qui en ont besoin. D'ailleurs, à ce point, on voulait faire un petit check sur les personnes qui sont en garde à vue. Il y a eu 7 gardes à vue hier, 6 personnes sont sorties, une personne est encore au commissariat de La Rochelle et on invite toutes celles et ceux qui le peuvent à aller la soutenir et à rejoindre le regroupement qui est déjà présent là-bas. Du coup, on voulait dire qu'en amont de l'événement et pendant, on a aussi fait pas mal de prévention et on a l'impression que ça a été saisi par les participants et participantes et qu'on a réussi à visibiliser les choses qui nous semblaient importantes. On a conscience des enjeux d'un événement comme celui-ci, de leurs conséquences et aussi des limites que ça peut poser en termes d'échelle aussi. On souhaite vraiment s'inscrire dans des organisations où chacun et chacune peut avoir sa place avec ses fragilités, ses vulnérabilités, ses singularités. On pense qu'il s'agit d'une responsabilité partagée. On est au travail là-dessus, tous et toutes ensemble, et on a conscience de la valeur politique et relationnelle du fait de bosser le soin du mieux possible. Du coup, on pense qu'on avance dans la direction de la joie militante, que ça s'est ressenti pendant cet événement, et on voulait vraiment vous remercier, c'était trop cool de faire ça ensemble. Particulièrement remercier les bénévoles qui étaient avec nous, qui ont donné de leur temps et de leur énergie. Et la base soin, voilà, c'était super. On poursuit le combat dans l'amour et la détermination. Voilà, merci beaucoup.
Salut, moi je vais parler pour l'InfoLine, donc InfoLine bonjour. Alors nous en début de semaine, on a essayé de vous guider pour arriver jusqu'au camp. Vous avez été nombreux à nous demander comment éviter les contrôles. C'était vraiment très difficile de répondre à cette question, mais je crois que quelques personnes ont réussi à arriver jusqu'ici sans être contrôlées. Donc on vous a guidé vendredi sur les différents points de rassemblement et indiqué jusqu'où vous deviez aller. On a aussi répondu à toutes sortes de questions. Petite pépite de l'InfoLine, on nous a demandé si les chiens de la brigade cynophile étaient là pour sentir la drogue ou des explosifs. Alors, pour info, ils peuvent reconnaître les deux. Ils peuvent aussi reconnaître les masques FFP2, de l'argent et vraiment beaucoup de choses diverses et variées. Et ensuite, hier à La Rochelle, on a essayé de vous guider dans la ville. Là, c'était un peu plus difficile, mais la deuxième pépite de l'InfoLine, c'est qu'on a eu un contact avec une personne qui s'est fait courser par les flics et qui s'est cachée sous un camion pendant 2 heures et qui a réussi à rentrer chez lui. Bravo à lui et force à lui.
Nous, on est les méga cantines, donc c'est nous qui vous avons... On n'a pas pu tous venir parler sur scène, hein, vous imaginez. On est un rassemblement d'une vingtaine de cantines.
On vient surtout de l'ouest et du sud de la France, mais aussi de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, des Pays-Bas. Le CAC 23, la Tofu Factory, la Louche Finale, le Plat de Résistance, Mange ta langue, Marmijote, la Technoplonge, l'Internationale Boulangère Mobilisée, le Méga Fournil, il y avait le Maxi Big Bus, il y avait le Rare, il y avait la Lutine, il y avait le Réseau Ravitaillement. Et pour l'intercantine du sud-ouest, il y avait la Midi Croquante, la Pyrocantine, le Plat Sympa, les Pommes des Terres, le Plan VG Pirate, les Patates 12, Vercors Plein Gaz, Las Vegas, Maulwurf, Schmutz, Cockerel, le Sabot, Cocor, le Feu aux Marmites et le R2R.
Et le Grenier des Soulèvements, qui ont aussi une grande importance dans notre collectif. Et voilà. Ça fait du coup à peu près environ 120 personnes qui étaient permanents en tournée derrière. Ça fait plus de 6 mois qu'on organise tout ça. Et il y a eu tous les jours plus de 200 d'entre vous qui nous ont prêté main forte, qui ont répondu à nos appels, qui ont créé des chaînes humaines pour se passer des sacs, des cartons. C'était vraiment fort et puissant. On vous remercie, nous. On n'aurait jamais pu y arriver sans vous. On voulait aussi vous partager que pour nous, c'est important ce qu'on fait. Pas seulement parce que vous aimez bien manger, mais parce que pour nous, c'est une façon de lutter, de cuisiner. De cuisiner pour les luttes, bien évidemment.
On vous a servi un petit peu plus de 42 000 repas à l'heure qu'il est. Il y a eu plus de 5 tonnes de pain qui ont été faites. Voilà, nourrir les luttes, c'est important. Restez mobilisés.
Le tofu qui vous a été fabriqué directement sur place, les fournils tournaient H24. C'était une logistique
complètement incroyable, avec tout ce que ça comporte, avec la conjoncture actuelle d'incertitude au point de vue de l'installation et la préparation. Et puis, un petit souvenir particulier pour les 6000 wraps qui ont été envoyés en action, qui ont été convoyés de manière hasardeuse, mais qui sont arrivés au bout. C'était beau et c'était aussi grâce à vous. Voilà, maintenant, on voudrait vous inviter à monter des cantines locales.
Rejoindre les collectifs qui sont déjà existants. Il y en a, comme vous pouvez le voir, partout en France, partout en Europe.
Et sinon, on a encore besoin de bénévoles pour démonter des barnums et le service de soir. Voilà, on vous remercie beaucoup.
Il reste aussi du pain à vendre. Donc n'oubliez pas de venir chercher votre pain pour le retour.
InfoLine, bonjour. Peut-être vous vouliez savoir comment repartir du village de l'eau ? Actuellement, il y a encore plusieurs points de contrôle autour du village, autour des parkings, autour des campings. C'est des contrôles un peu moins systématiques qu'au début de la semaine, mais ils sont quand même présents. Et il y a encore des gros points de contrôle sur les grands axes pour repartir d'ici dans à peu près toutes les directions. Il y a la carte qu'on continue de mettre à jour et les contrôles étant un peu aléatoires, on vous invite à retrouver votre plus belle chemise pour avoir pas l'air de revenir d'ici et amoindrir vos chances de contrôle. Bon courage.
Petit point info, beaucoup d'entre nous se sont fait saisir des choses lors des points de contrôle.
comment on fait pour récupérer les affaires? Qui peut les récupérer? Lorsqu'on vous a saisi du matériel, vous avez dû avoir un papier qui dit quel matériel vous avez été saisi et à quel endroit aller le rechercher. Vous pouvez complètement en fait faire une procuration pour que d'autres personnes aillent le chercher. On vous a imprimé des procurations vierges. Il les faut avec une pièce d'identité ou la photocopie d'une pièce d'identité. Vous trouverez tout ça sous la tente info là-bas. Par contre, c'est de l'autogestion. C'est pas nous qui sommes en capacité de le faire. Voilà, merci beaucoup.
Bonjour. Je vais parler lentement pour les copains de l'interprétation. Nous, on est la cordeau de la team interprétation. Et oui, tout le monde l'a dit, mais c'est très impressionnant, voilà. Pensez une mobilisation internationale. C'est pas possible si on n'intègre pas aux luttes la question de l'interprétariat et des langues plurielles. Le langage, c'est politique. Il faut que l'on sorte de la vision de la France et du français comme le centre des luttes et qu'on commence à imaginer nos luttes de manière locale, mais aussi européenne et mondiale. Mais pour ça, il faut du monde. Sur le camp, on a été à peu près 80 interprètes bénévoles et une régie technique avec le collectif Hans. C'est grâce à eux qu'on a des superbes cabines tout terrain. Du coup, un gros groupe d'interprètes bénévoles qui a parlé en plusieurs langues. On a parlé en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en portugais et en catalan, oui. Et on avait aussi des interprètes en LSF. Et on a permis des centaines d'internationaux de participer aux tables rondes, mais aussi aux formations militantes. On les a accompagnés sur le camp, mais on les a aussi accompagnés en manifaction. Et si vous étiez là hier, vous pouvez vraiment imaginer à quel point c'était compliqué. Un grand merci à ceux qui l'ont fait. Donc on est bénévoles, on a vraiment fait de notre mieux et c'était pas facile tous les jours parce que la question de l'interprétariat et de la traduction et des langues en général, c'est pas encore un réflexe dans les mondes militants. Donc nous, notre message, c'est vraiment de vous dire qu'il faut qu'on pense ça ensemble et qu'on s'organise et qu'on construise quelque chose collectivement parce que ce dispositif, on aimerait vraiment beaucoup pouvoir le développer et l'améliorer à l'avenir. Un grand merci aussi à toutes les personnes de l'Orga qui ont rendu ça possible. Et qui ont permis à la langue et à l'interprétariat d'être une réalité sur ce camp-là. Sans langue, il n'y a pas de communication. Et sans communication, il n'y a pas de lutte. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Moi, je suis là pour représenter le groupe Trace, constitué pour réfléchir à la manière dont on pouvait documenter et archiver de manière sensible la lutte. Pendant toute la semaine, on a créé ce petit musée de la lutte qui est venu se remplir de toutes les traces que vous nous avez laissées, des traces sensibles, des témoignages, des dessins, aussi des audios que vous nous avez envoyés. Grâce à ça, on a réussi à constituer 6 gazettes qui s'appelaient La Gazouille. J'espère que vous avez eu la chance de la lire. Et qui ont été doublés des podcasts de La Gazouille qui ont été diffusés sur la méga radio. On est très contents d'avoir réussi aussi à produire ça parce qu'on a l'impression qu'au groupe Trace, on a besoin, on a la volonté vraiment de créer des récits qui soient alternatifs aux récits médiatiques qui nous écrasent en fait dans la réalité de la lutte qu'on vit. Et grâce à tous vos témoignages, en fait, on arrive à constituer de la matière qui nous permet de créer voilà, des histoires dans lesquelles enfin on se reconnaît et dans lesquelles on est fort et forte tous ensemble. Donc merci à tous et à toutes. On continuera sur les prochaines mobilisations, sans doute dans des formes qui sont peut-être un peu différentes. Et si vous voulez retrouver La Gazouille, que ce soit version podcast ou version papier, on va tout mettre en ligne dispo sur le site de bassinenonmerci.fr. Merci.
Donc moi, on m'a demandé de venir redire un mot donc pour la commission programmation, donc sur la programmation politique, où on était nombreuses. Donc c'est une programmation qui s'est construite au fil des mois avec plein de collectifs et d'organisations.
Il y avait bien sûr Bassine Non Merci, il y avait la CGT, il y avait Solidaire, il y avait Attaque, il y avait la Fondation des Mitterrand, il y avait des personnes du réseau Hydre et la coordination aux Îles-de-France. Et on a construit comme ça au fil des mois cette riche programmation politique qui avait un peu pour but de repartir du système Bassine et des problèmes d'accaparement de l'eau dans le territoire du Marais Poitevin. Et puis de remonter un peu le fil aux sources de l'accaparement de l'eau, donc pour remonter jusqu'aux questions des modèles agricoles, des alternatives aussi à ces modèles agricoles, des enjeux de souveraineté alimentaire, d'export de céréales, etc. Et puis de parler aussi plus largement d'accaparement de l'eau, d'extractivisme, puis aussi avec des dialogues croisés locaux et internationaux. On a parlé d'accaparement de l'eau et d'apartheid de l'eau en Palestine, des grands barrages au Brésil, grâce notamment à la fabuleuse délégation internationale. Donc, il y avait plus de 30 personnes qui venaient du monde entier pour discuter avec nous cette semaine sur ces tables rondes. Et ça a vraiment permis une articulation un peu plus fine encore que l'année dernière, où il y avait déjà des personnes de l'international sur l'articulation de nos mouvements. Il y a eu des espaces qui ont été ouverts pour pouvoir avoir un travail un peu plus fin sur ces articulations entre mouvements d'ici et mouvements de là-bas, à la fois nord-sud, mais aussi sud-sud, et puis aussi nord-nord, où on était vraiment très contents d'accueillir aussi dans ces tables rondes des personnes d'un certain nombre de collectifs anticoloniaux et antiracistes, notamment Urgence Palestine, le mouvement des jeunes Kanaks, des personnes de la Marche des Solidarités, du collectif A4, et ça dessine de très belles alliances aussi pour la suite du travail qu'on a à faire dans le contexte de néofascisation auquel on fait face. Voilà.
Moi, je vais prendre la parole pour vous parler de comment est-ce que la communication a été prise en charge et aussi travaillée par tout un groupe de personnes assez diverses. C'est vrai que là, ici, sur ce village de l'eau, on est quand même dans une bulle. Peut-être que certaines sont pas du tout connectées avec la façon dont on est perçu à l'extérieur, par les médias notamment, etc. Nous, on s'est un peu farci toute la revue de presse, tous les JT, etc. pour vous dire que quand même, c'est une super belle réussite à ce niveau-là. On a vraiment vu nos messages qui ont été repris dans la presse. On a vu quand même des sujets qui n'étaient pas du tout abordés jusque-là, qui ont fait l'objet de très beaux articles, notamment toute la dimension sur l'export, sur la spéculation, enfin tout le message qu'on a porté avec l'action au port hier. Et ça, c'est vraiment une belle réussite pour nous. On avait énormément de presse nationale, internationale sur place et une équipe de porte-parole qui a relevé l'exercice de porter notre parole à tous et toutes auprès de ces médias. Donc merci beaucoup à toutes et tous, tous les porte-paroles. Sachant que ces porte-paroles, ils prennent aussi des risques, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les porte-paroles ont été condamnées récemment, l'année dernière, et que du coup, c'est quand même des choses à penser collectivement, etc. Ce qui est aussi très important pour nous, c'est de pouvoir produire notre propre récit. Du coup, on avait des équipes, au-delà des approches sensibles, dont l'espace Trace, le groupe Trace, mais on avait des équipes de médias activistes qui se sont démenées et qui se sont relayées pour produire de l'image, des équipes qui se sont relayées aussi jour et nuit pour faire un travail super chronophage. Et donc, merci beaucoup à LEE d'avoir donné autant de temps et d'énergie jour et nuit pour pouvoir produire ce récit-là. Et tous les communiqués voilà, qu'on a pu écrire, ça pareil, c'est des choses que vous pouvez retrouver en ligne. Donc on est bien conscient et consciente que l'image, le rapport à l'image, il est compliqué, il est sensible. Et nous, on a une vraie attention à ça, à pouvoir préserver l'anonymat des personnes ou à respecter le consentement des personnes sur le droit à l'image. Et du coup, il y a une adresse mail à laquelle vous pouvez écrire si vous vous rendez compte qu'il y a une de vos images qui a été utilisée sans votre consentement, ou en tout cas que vous voulez faire retirer, par exemple. Donc cette adresse, elle s'appelle jamaissansmonaccord@proton.me. On sera derrière, vous pouvez nous écrire et on sera vigilant et vigilante là-dessus. Merci.
Bonjour, je vais prendre la parole au nom des Naturalistes des Terres pour revenir sur l'action qui s'est passée vendredi soir. Donc, deux créatures de l'eau se sont associées aux Naturalistes des Terres pour proposer cette action, le Cuivré des Marais et la Lentille d'eau, qui sont, comme nous et comme les Deux-Sèvres, spoliées de l'eau dont ces créatures dépendent. On a évoqué le Cuivré des Marais avec un cerf-volant qui maintenait une petite boule d'osier tressée qui contenait des lentilles d'eau et qu'on a réussi tant bien que mal à faire décoller avec plein d'incertitudes sur le vent. Merci le vent. Et les lentilles d'eau donc ont décollé à une centaine de mètres d'altitude, ont franchi les digues par l'air, au-dessus de la police sidérée qui regardait le cerf-volant en se demandant ce que c'était. L'hélicoptère a eu peur de ces cerfs-volants et s'est écarté. Et on a pu larguer donc des lentilles d'eau qui sont aujourd'hui en train de rester dans cette bassine et de faire leurs choses jusqu'à, espérons-le, désarmer cette méga bassine. On est super heureux de ce dispositif complètement inédit et doux et beau à la fois et en même temps qui surprend, qui arrive à faire fuir les hélicoptères. Donc ce qu'on va proposer, c'est que la fois d'après, au-dessus des sites, il y ait des dizaines et des dizaines de cerfs-volants pour qu'on ne soit plus jamais survolé par aucun hélicoptère. Et qu'on continue à s'associer avec toutes ces créatures qui, elles aussi, dépendent de l'eau. Merci.
Pas de bassine à Saint-Sauvent. On a lâché les cerfs-volants. Maintenant, il y a des lentilles dedans. Pas de bassine à Saint-Sauvent. On a lâché les cerfs-volants. Maintenant, il y a des lentilles dedans.
Pas de bassine à Saint-Sauvent. On a lâché les cerfs-volants.
Salut, moi je prends la parole depuis la commission village. Du coup, c'est les personnes, les équipes qui ont travaillé à mettre le cadre d'accueil de cet événement ici. On y a travaillé pendant des jours, des semaines, des mois. Du coup, merci à toutes ces personnes qui ont contribué, à toutes ces équipes qui ont permis de créer cet espace accueillant pour les formations, pour les rencontres, pour les échanges, pour... l'ensemble de ce qui s'est déroulé ici et pour le fait que ça puisse servir d'accueil à l'ensemble de la mobilisation. Merci aussi aux personnes qui ont donné de l'argent pour permettre d'absorber les frais engagés pour accueillir ce village ici. Merci aux personnes qui continueront à donner car pour l'instant on a quelques dizaines de milliers d'euros encore en déficit. Et surtout merci aux personnes qui resteront démontées avec nous dans les prochains jours. On en a encore au moins jusqu'à mercredi soir. Des structures, de l'électricité, plein de choses à démonter. Restez avec nous. À bientôt.
On fera une autre prise de parole. Désolée, je crois qu'on l'a déjà dit, mais c'est la première fois que ça nous arrive. Il y a 90 000 euros de déficit pour nos organisations. Du coup, il y aura une cagnotte qui tournera, mais si vous n'avez pas donné de prix libre à l'entrée, c'est vraiment trop super de participer à la hauteur de vos moyens. Du coup, je continue à prendre la parole sur un autre sujet. Je suis membre des Soulèvements de la Terre. Nous, je pense qu'on est très heureux de cette mobilisation, d'avoir pu montrer un an après Sainte-Soline qu'on pouvait se retrouver encore plus nombreux, tout aussi déterminés. Là, il y a plus de 40 000 personnes qui sont venues sur le village ou aux mobilisations, c'est énorme. Donc merci à vous tous et toutes. Il y avait un fort enjeu, c'était d'essayer de se réinventer après Sainte-Soline. Je pense qu'on a réussi à atteindre des objectifs, notamment en bloquant le port hier contre toute attente, malgré le dispositif policier, en réussissant à passer avec les tracteurs, aussi avec l'action de nos camarades naturalistes. Certes, on s'est retrouvé face à un dispositif répressif très 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 important. C'était pas simple aussi de manifester en ville. Je sais qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de le faire dans ce mouvement-là. Donc n'hésitez pas, en fait, si vous avez des retours à faire sur la mobilisation. Nous, on a fait de notre mieux en prenant en compte tous les paramètres et avec les autres organisations, enfin là je parle au sein des Soulèvements de la Terre, mais voilà, toutes les actions, toute la mobilisation, elle a été pensée pendant un an par tout un tas d'organisations. On laissera un espace comme après Sainte-Soline pour recevoir tous ces retours-là. On est aussi très contents du coup d'avoir eu un espace pour se former toutes et tous ensemble à comment se tenir en groupe, en cortège, à résister en fait face à la répression et à laisser des espaces aussi peut-être pour permettre aux gens en tout cas d'avoir peut-être les capacité en fait de sentir de prendre des initiatives en manifestation. C'est sans doute pas suffisant au vu des défis qui nous attendent, au vu de la répression qui s'empire. Donc la prochaine fois, nous, on est vraiment encore une fois très preneurs de réflexion sur comment on peut organiser des manifestations différemment et toujours concilier notre envie de manifester de manière massive tout en restant en sécurité et en pouvant mener des actions impactantes. Dans tous les cas, c'est très fort ce qu'on a fait en visibilisant le port de la Palisse hier, en visibilisant tout le système bassine. Et on vous remercie encore une fois très chaleureusement.
Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Laurine Remeau pour Solidaire cette fois, et peut-être pour les deux organisations co-déclarantes, si la camarade d'attaque n'a pas le temps de parler. On voulait vous redire un petit mot, pour vous redire évidemment un grand, un très grand, un très grand merci. merci énormément pour tout ce qu'on a vécu ensemble. C'est ce qu'on va garder, on s'appelle pas solidaire pour rien. On va garder ce qu'on a vécu toute cette semaine. C'est un exemple d'autogestion, c'est un exemple d'organisation, ce village de l'eau. On va garder la fierté qu'on a de militer avec vous, avec les camarades de toutes ces organisations, de tous ces collectifs. On est déjà en train de discuter de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui va se passer après. On prépare déjà tout ce qui va se passer ensemble. La lutte, elle s'arrêtera jamais, on lâchera jamais rien. Jamais. Et nous, ce qu'on va garder, c'est ce geste, un de ces gestes qu'on a découvert ensemble. Ce geste qui nous disait de faire bloc, de rester unis ensemble, on va le garder. Et on va l'utiliser toujours, ensemble, tout le temps. Merci. Je passe la parole à la camarade d'Attaque, du coup.
Oui, bonjour. Attaque, en fait, on n'attaque rien du tout. C'est une association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. C'est une association altermondialiste qui lutte pour la justice fiscale, sociale et environnementale. La problématique de l'eau traverse toutes les campagnes qu'on mène depuis des années contre l'accaparement des terres, la finance mondiale et les multinationales comme Bolloré et d'autres que je ne peux pas toutes citer. On soutient les luttes en France et à l'étranger aussi contre cet accaparement des terres, de l'eau, pour arriver à davantage de justice sur tous les plans. On était tout à fait, je pense, à notre place en soutenant l'organisation de ce village de l'eau. Et on espère que les luttes vont aboutir favorablement. En tout cas, il y a eu une superbe, magnifique mobilisation toute la semaine et plus particulièrement encore vendredi et samedi. Et on continuera à soutenir ce genre d'organisation. À très bientôt.
Bonjour, Floriane Gicquiot, élue adjointe à Monsieur le maire. Je pense que c'est plutôt à nous de vous remercier parce que sans vous, il ne se serait pas passé grand-chose. C'était important pour nous d'accueillir le village de l'eau ici, sur ce site, à côté de la ferme de la Génellerie. C'était important et à la fois risqué. Ça nous parle parce que sur ce site, sur cette ferme, on veut développer des projets d'agriculture paysanne. On veut montrer que même à l'échelle d'une collectivité, c'est possible d'avoir une autre agriculture qui rémunère les paysans comme il faut et qui respecte les valeurs. Et à la fois, c'était risqué parce qu'accueillir 10 000 personnes en plein milieu d'une aire de captage d'eau potable, le long d'une vallée à moins de 800 mètres à vol d'oiseau, contribue directement au captage d'eau potable. C'était un risque qu'on a pris. Et du coup, je vous remercie beaucoup parce que tout a été respecté. Donc, c'est vraiment génial et... quand ça fait sens, on voit qu'il n'y a pas de problème à respecter les règles et ça, c'est vraiment honorable. Encore merci.
Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sarah Klingler. Je suis première adjointe à la ville de Mel. Et j'ai dans ma délégation la culture et l'éducation populaire. Il n'y a pas forcément beaucoup d'adjoints en charge de l'éducation populaire en France. Il n'y en a peut-être pas beaucoup qui sont premiers adjoints de leur collectivité. Ce choix-là, il fait écho aussi avec le fait de vous accueillir et d'avoir accueilli ce village de l'eau sur notre commune. Nous, on a conçu ce village et on l'a accueilli parce que pour nous, c'était un espace de démocratie, d'échange, de rencontre, de formation individuelle et collective. Et aujourd'hui, à la fin de cette semaine, on est aussi pleinement heureux et rassurés. Parce que cet objectif-là que nous, on y voyait, l'intérêt qu'on y voyait pour notre commune de vous accueillir, est pleinement rempli. La semaine a été dense, partage d'expériences, en formation, en information, en circulation, en rencontre, en création de liens entre des personnes, entre des structures, des organisations. Et aujourd'hui, ça a contribué à poser les graines, à laisser germer, fermenter aussi, d'autres modes d'action, d'autres formes d'engagement, d'autres prises de conscience. Pour nous, l'éducation populaire, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on crée des espaces d'émancipation individuelle, mais qui sont au service d'un enjeu de transformation sociale et qui vont nous aider tous ensemble au fait de vivre mieux demain, tous ensemble, entre vivants au pluriel. Merci d'avoir rendu ça possible et d'avoir traduit en acte.
Sylvain Griffo, maire de Mel.
Quasiment tout a été dit par Floriane et Sarah sur le pourquoi effectivement la commune de Mel elle a accepté d'accueillir ce village de l'eau après avoir accueilli le forum de l'eau en mars 2023. Décision qu'on prend assez en amont et qui vont leurs conséquences ensuite tout au long de la semaine. Vous avez vu qu'effectivement il y avait des gens comme Benoît qui portaient les choses sur les plateaux nationaux, nous ici au niveau presse locale. Moi, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements, peut-être le plus grand, aux habitants de Saint-Martin-les-Mels. Les habitants de Saint-Martin-les-Mels, ils n'ont pas forcément choisi que ça s'installe ici. Ce sont les élus qui ont choisi que ce lieu-là, parce qu'il a un sens politique, soit le lieu d'accueil de ce village. Et forcément, ça crée des désagréments. Le fait que des habitants qui habitent juste en face soient contrôlés par la gendarmerie parce que vous êtes de dangereux écoterroristes qu'il faut contrôler toute la journée. Ça crée le fait qu'il y a quelques tags qu'on a essayé, et vous avez essayé aussi de les enlever. Les gens qui habitent Saint-Martin sont des gens qui sont aussi fiers comme on l'est de ce lieu. On est dans la ferme de la Genellerie, la vallée de l'Argentière, c'est leur lieu, c'est leur cadre de vie. Et on est venu à plus de 10 000 nous imposer un petit peu dans ce cadre de vie dont on souhaite qu'il soit, comme l'a dit Sarah, un outil de transformation sociale, un outil de transformation agricole. Ce que vous avez montré pendant cette semaine, ça prouve que le projet que l'on mène au niveau municipal est un projet qui a du sens, qui rassemble beaucoup et qu'en fait, ce n'est pas une seule graine qui est semée, c'est plusieurs dizaines de milliers de graines qui sont semées dans ce territoire. Quoi qu'il arrive ensuite, on saura avoir le discours pour le défendre et dire que, quoi qu'il arrive, vous serez derrière nous dans tout ce qui pourra nous arriver ici à Mel et on sera derrière vous pour tout ce que vous pourrez construire ailleurs. Et c'est ça le plus important. Donc merci beaucoup à toutes et tous et nos bassaranes.
Le maire de Mel retire son écharpe tricolore et la passe au député Benoît Biteau.
Bonjour à tous. Donc Benoît Biteau, paysan bio, agronome, ancien député européen, mais surtout député à l'Assemblée nationale pour le nouveau Front populaire depuis dimanche dernier. Je suis toujours présent au rassemblement contre les méga-bassines. Je n'étais pas avec vous pour lâcher les lentilles sur ce plan d'eau et j'aurais adoré voir ce moment-là parce que c'est d'une créativité, d'une ingéniosité absolument remarquable et moi j'adore quand vous faites des choses comme ça. Je n'étais pas là non plus à La Rochelle, tout simplement parce que j'étais où je devais être à l'installation de cette Assemblée nationale. Moi je veux rendre hommage à Sylvain et à son équipe municipale qui ont accepté que ce village de l'eau soit là. Donc je vous demande de les applaudir vraiment très fort. Il faut maintenir vos applaudissements pour les habitants locaux à qui on avait fait passer des messages qu'ils allaient recevoir des vilains acteurs et qui ont pu constater que vous n'êtes pas ceux qu'on avait prédit. Donc merci aux habitants de Saint-Martin-les-Mels, merci à eux. Merci aussi aux organisateurs parce que depuis que je travaille sur ce sujet des méga-bassines et j'ai écrit le premier texte où j'émettais des réserves, sans vilain jeu de mots, sur l'intérêt de ces méga-bassines, c'était le siècle dernier, en 1999. Ça fait précisément 25 ans, et Julien était déjà avec moi, ça fait précisément 25 ans qu'on émet de sévères réserves sur ces équipements et au fil du temps, c'est constitué des rassemblements, puis des manifestations, puis des regroupements, puis ce que vous êtes en train de vivre depuis 3 ou 4 ans maintenant avec des rassemblements qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et ce qui s'est passé cette semaine en est une nouvelle illustration. Mais ce que je constate, depuis l'arrivée de ces derniers mouvements que certains veulent dissoudre, que certains veulent qualifier d'éco-terroristes, c'est la preuve d'une créativité assez incroyable, d'une capacité à accueillir des gens de façon incroyable, à fournir des repas, à monter des campements, à organiser des manifestations qui déjouent les stratégies des forces de l'ordre. Moi, je suis admiratif, je vous le dis, je suis admiratif de ces jeunes que certains présentent comme une menace pour l'avenir de la société et qui, en vérité, parce que c'est anxiogène ce qui se passe, parce que le dérèglement climatique, parce que l'effondrement de la biodiversité, parce que les ressources comme l'eau, l'air sont menacées par ce qu'on a fait depuis trop longtemps, eh bien, parce qu'ils sont anxieux, sont surtout créatifs. Et donc, je veux qu'on salue ces mouvements qui permettent de réussir des rassemblements comme cela. Et si je vous parle de ma satisfaction, si je vous parle de tout ça, de Sylvain et de son équipe municipale, des habitants de Saint-Martin-les-Mêles, de vous tous créatifs qui avez permis ce rassemblement-là, c'est qu'on attend tous la même chose. En tout cas, ceux qui ont été élus sous l'égide du nouveau Front populaire, on attend un moratoire sur les méga-bassines dans les 15 premiers jours qui vont suivre l'émergence de ce gouvernement. Au risque de contrarier ceux qui sont contre ce moratoire, ce qui s'est passé cette semaine, ici, sur ce site, c'est l'amorce de ce moratoire. C'est-à-dire que pour avancer sur le moratoire, il va falloir qu'on puisse à nouveau remettre sur la table les éclairages scientifiques pertinents. Il va falloir qu'on remette sur la table les attentes sociétales, les attentes citoyennes. Il va falloir qu'on dise à ce gouvernement que les décisions de justice ne valident pas l'émergence de ces méga-bassines et que donc on a besoin d'un moratoire. Mais un moratoire, c'est savoir se remettre autour de la table pour discuter à nouveau. Et donc quand on a des événements comme ça qui ont fait l'objet de discussions, de tables rondes, d'éclairages venus du monde entier, eh bien on crée le socle, les fondements d'un moratoire qu'on espère tous ici. Ouais. Et enfin, je vais essayer de rester optimiste et porteur d'espoir. Je vous l'ai dit, j'étais à l'installation de l'Assemblée nationale. Vous attendez tous effectivement que le nouveau Front populaire soit en capacité de nommer un Premier ministre, une Première ministre et tout simplement un gouvernement. Ça peut encore se produire. Ce qui s'est passé cette semaine en est l'illustration. Bien sûr, on n'a pas gagné le perchoir. Bien sûr, les forces de droite se sont rassemblées pour reconduire Yaël Braun-Pivet. Mais je vais vous donner d'autres éléments de lecture. C'est-à-dire que sur les 22 membres du bureau à l'Assemblée nationale, on est 12 du nouveau Front populaire. Et donc, on a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, on va pouvoir juguler les délires de M. Macron et de ceux qui votent pour eux. Ensuite, on a hier constitué la gouvernance des commissions thématiques. Bien sûr qu'on n'a pas gagné toutes les présidences, mais globalement, on a quand même obtenu des postes clés dans toutes les commissions. Et donc, on est là au combat pour permettre de faire avancer ces commissions dans le sens du programme pour lequel vous avez voté quand vous avez voté pour le nouveau Front populaire. Et donc, on est à la manœuvre, on est au pouvoir, même si tout ne se passe pas exactement comme on avait prévu, tout simplement parce qu'on n'est pas encore assez nombreux. Même si la vague a été forte, on n'est pas encore assez nombreux. Mais je veux finir sur une note d'optimisme, et ce n'est pas mince. C'est que grâce à la détermination du nouveau Front populaire, au moment où je vous parle, le Rassemblement national n'a aucun siège nulle part, ni à l'Assemblée nationale, ni dans les commissions thématiques. Et ça, on peut s'en réjouir. C'est pour ces raisons-là que je reste optimiste sur la faculté et la possibilité de ce nouveau Front populaire à désigner une ou un Premier ministre et un gouvernement qu'on peut imposer à M. Macron. Donc voilà, l'espoir est là, le moratoire est à portée de main. Grâce à vous, on a marqué des points supplémentaires pour l'atteindre et grâce aux élus que vous avez choisis, on va réussir à avancer sur le sujet de l'eau, d'une meilleure gestion de l'eau et d'un moratoire sur les méga-bassines. Et encore un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui sont à l'origine de la réussite de cette semaine merveilleuse pour la gestion de l'eau.
Salut, Joanne de Bassine Non Merci. Ce qu'on se dit là à chaud, c'est qu'il y a plein de très très belles choses, plein de choses très fortes qui se sont passées pendant cette semaine. Il y a aussi plein de choses qui méritent d'y réfléchir, peut-être d'évoluer, encore se réinventer, que ce soit sur la vie du village et dans les journées d'action. Ce qu'on peut dire localement, là, c'est que l'avant, le pendant et l'après cette semaine de la mobilisation Stop Méga Bassine, ça fait parler. Du coup, c'est un sujet de La Rochelle à Poitiers. Tout le monde parle de ça. Tout le monde a parlé de l'eau. Le monde entier aussi, avec tous les internationaux et tout ça qui étaient là, ça met à jour qu'en fait, il y a des dissensions au sein du monde agricole, au sein des institutions politiques. C'est un sujet de conversation dans les villages, partout. C'est quand même assez fort. Ce sont des brèches qu'on va continuer d'exploiter pour continuer d'aller vers ce moratoire qu'on met déjà en fait un peu en œuvre sur le terrain, puisque, rappelons-le, sur les 16 méga-bassines qui devaient être déjà construites, il n'y en a qu'une de terminée. Voilà. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est un moratoire sur les bassines. Et on va être là pour continuer la lutte. On est toujours déterminés. On sera là en cas de démarrage de chantier à Saint-Sauvent. Ouais. Merci et nos bassins. Nos bassins.
Quelle semaine incroyable. Waouh, waouh, waouh.
Julien Leguet, porte-parole de Bassine Non Merci, s'adresse à Sylvain Griffaut, maire de Mel.
Et je vais me permettre de livrer un petit peu de l'intimité ou des coulisses de comment on en est arrivé là. Ça s'est passé au mois de février. Au nom du collectif, je suis allé voir Sylvain pour lui dire on a trois demandes. La première, c'était de savoir si on pourrait avoir accès au Métulum, de la salle de cinéma de Mel, pour pouvoir célébrer, se retrouver pour les un an après Sainte-Soline. La deuxième, c'était de savoir si on pourrait trouver un coin dans la ville pour élever un monument, un cairn, en hommage aux camarades blessés à Sainte-Soline. Cairn qui, je vous le rappelle, a été dégradé par nos adversaires, par des loulous mal intentionnés qui n'avaient pas compris qu'ils avaient touché un symbole très fort. Et la troisième, c'était cette demande de savoir s'il était envisageable pour que ce grand rassemblement qu'on avait annoncé déjà depuis 6 mois, mais on ne savait pas encore où ça allait se passer, savoir si c'était imaginable de le projeter ici. Le bonhomme, il m'a pris dans ses bras, il a dit merci. C'est fou. On pose une demande et on est remercié. Merci Sylvain. Incroyable. Ça change tout. Quand ça a été coché, il a fallu prendre en compte les gens qui travaillaient ici, les gens qui se projetaient à la Génellerie, qui portent des projets ici et dont il fallait bien s'affranchir, bien être sûr que ce qu'on allait mettre en branle n'allait pas entraver tous les projets qui étaient imaginés. Les négociations avec les propriétaires alentours pour imaginer des échanges ou d'aller vers la bio pour protéger le captage d'eau potable. L'ami Mathieu, que vous aurez croisé, le copain maraîcher qui travaille la terre ici depuis 1 an et demi avec son camarade Jérôme, et qui sont aussi ceux qui utilisent les 2 ânes qui ont été nos camarades pendant cette semaine-là. Et Mathieu, je lui ai dit, mais ça te le fait au mois de juillet, à la mi-juillet, qu'on soit 10 000 dans ton terrain, là? Et Mathieu, il a pris une place incroyable. Il a été de tous les instants, il faut lui envoyer plein de fleurs, parce qu'il a été tellement facilitateur. Mathieu, son métier, c'est maraîcher. Il produit des légumes pour le resto du coin. En fait, il a donné énormément. Et puis, il a pris du retard sur les plans de semailles. Et on s'était dit que si c'était le cas, il y aurait du relais. Et parmi les très belles choses qui ont été faites avant que vous arriviez, par exemple, ce chantier, on a battu le record de plantation de poireaux où à 20, en 45 minutes, on a planté 1200 poireaux. Ouais. Et puis, il y a aussi tous ces jeunes, beaucoup de jeunes de Mel, notamment des jeunes qui sont étudiants au lycée agricole de Mel, de GPN ou pas, également des salariés d'associations de protection de la nature du coin, qui, avec leur casquette de citoyens, citoyennes, ou des salariés de la mairie, se sont dit, mais on a un joyau ici, cette vallée de l'Argentière, c'est vraiment un bijou. Comment on prend en compte l'ensemble des formes de vivants, humains et non humains, dans l'aménagement, la manière de penser ce site. Et donc, il y a eu de très nombreux inventaires qui ont été faits ici. On a su qu'il y avait 18 espèces de chauves-souris. On ne le savait pas avant qu'on inventorie tout ça. On a su qu'il y avait 16 espèces de libellules. Et on a su que la loutre était présente. D'abord, on a trouvé des crottes. Ouais, madame la loutre. L'outrage. On va repartir. Le terrain, il va se vider, là. Ça va être dur de voir partir. L'herbe, elle va reverdir, là. Et puis, il y a des gens qui ont construit ce projet, qui vont rester vivre ici. On va rentrer dans une phase où on va discuter avec ces gens, on va discuter avec les gens du voisinage, BNM et tous les gens qui seront investis dans cette aventure humaine. On va avoir envie de discuter, de dire, mais qu'est-ce que ça devient, cette ferme de la Génellerie? Comment continuer à apporter toute cette énergie citoyenne au profit de l'installation agricole? Comment on fait de cette Génellerie et de cette vallée de l'Argentière un véritable laboratoire citoyen et citoyenne pour une agriculture qui fasse le bien, qui fasse le beau, qui fasse le vivant? Quelques petits chiffres quand même. On a estimé qu'entre 40 et 50 000 personnes avaient fréquenté le lieu depuis le début de la semaine. C'est énorme. Et là, Darmanin, tu peux envoyer tes hélicos, t'enlèveras rien à notre détermination et à notre courage. Vous allez partir et puis on va rester. Et il y a des chantiers qui sont restés en suspens. Il y a un chantier qu'on va s'empresser de finir parce qu'il est beau. Dans une des pièces de la Génellerie, on va aller chercher un petit peu de terre encore dans la vallée de l'Argentière, une terre argileuse, et on va faire une maison, un habitat à chauve-souris. Voilà. Également, il y a eu une très très belle réalisation qu'on n'a malheureusement pas pu vous montrer à tous au sein de la Génellerie, où il y avait un four à pain magnifique de la fin du XVIIIe siècle qui n'avait pas fonctionné depuis 50 ans. et qui a été l'objet, c'est la première chose, le premier chantier qu'on a fait tous ensemble avec les bâtisseureuses des terres du Mélois. On a réhabilité ce four, on a refait la sole, on a refait la cheminée. Et ça fait un mois qu'il y a un four collectif qui est maintenant utilisable dans le village de Saint-Martin. Et donc il va falloir imaginer comment il vit. Nous, on rêve à ce que cet outil qu'on a construit ensemble, il puisse par exemple à l'avenir permettre à un ou une paysanne boulangère de s'installer ici. On rêve à des appropriations des gens du quartier ou des associations qui puissent imaginer de se l'approprier, d'être un lieu de convivialité comme ça. Et pour ça, il va y avoir une bataille de la reprise des terres qui va être portée par la mairie. Vous pouvez compter sur nous, on sera à vos côtés. Voilà, s'il faut trouver des thunes, on trouvera des thunes. S'il faut trouver des spécialistes, on sera là. Parce qu'il y a 640 hectares à protéger ici, pour protéger la ressource en eau des 5000 habitants méloises et méloises. Et c'est un très très beau pari. On a vécu un truc incroyable. Mais la lutte, elle n'est pas finie. On n'a toujours pas le moratoire. Il y a toujours la menace de ce chantier à Saint-Sauvent. La FNSEA, elle tient toujours les rênes des chambres d'agriculture. Il y a toujours plein de mairies qui sont gérées par des gens qui confondent l'intérêt général et l'intérêt particulier. Et puis, il y a des échéances. Je crois qu'avec ce qu'on a vécu ici à Mel, on doit se mettre en tête que les prochaines élections municipales, ça va être un très, très, très gros enjeu. Et si on veut, comme c'était un des objectifs forts de ce village de l'eau, faire en sorte qu'on n'ait pas une France brun foncé dans 3 ans, eh bien, les municipales, ça va être l'occasion de mobiliser toutes nos forces, camarades. Et donc, ça va être le moment de se dire au revoir et de se dire à très bientôt et qu'on va continuer cette lutte. Et si on gagne sur les méga-bassines, vous l'avez bien compris, il y a tout ce monde désirable à construire. Il y a toute cette imagination, toute cette force collective qu'on a pu mettre en œuvre pour résister. On pourra la mettre en œuvre pour construire. Ouais. Nos Bassaran.
Nos Bassaran. Nos Bassaran. Nos Bassaran.
Voilà donc pour ce bilan du village de l'eau 2024. Pour la dernière partie de cette émission, votre serviteur a un peu réfléchi à comment vous raconter ce qui suit. Alors vous le savez, dans le cadre de cette lutte anti-bassine, on vient d'entendre des porte-paroles de collectifs, associations, syndicats, et aussi des élus de la République, ceints de leur écharpe tricolore, comme Sylvain Griffaud, donc, maire de Mel, et le député Benoît Biteau. Mais ailleurs, sur l'éventail de cette large opposition aux bassines et au capitalisme, il y a aussi des black blocs, sujet que je ne maîtrise pas du tout. Bon alors oui, à Sainte-Soline, en réponse aux tirs de grenades, j'ai effectivement aperçu des gens en noir jeter des cailloux, tirer des feux d'artifice sur des boucliers en plexiglas. Il aura peut-être bien fallu un cocktail Molotov pour mettre le feu à la fameuse estafette de Sainte-Soline, estafette dont l'incendie a fourni ces images dont raffolent les médias dominants pour discréditer toute contestation populaire. Mais face à ces black blocs qui se protègent avec des parapluies, des armées de Robocop suréquipées capables de balancer 5000 grenades en 2 heures. Et rappelons que ce vendredi 19 juillet 2024, c'est pas les soi-disant vilains éco-terroristes qui ont mis le feu aux champs traversés par près de 6500 personnes. Les incendiaires ce jour-là, c'était les gendarmes. Alors avant d'aller plus loin dans mon récit, définition du dictionnaire Larousse. Black bloc, non masculin, groupe de militants radicaux, anarchistes ou autonomes, organisés pour attaquer, souvent avec violence, les symboles de l'État et ou du capitalisme. Forces de l'ordre, banques, etc., lors de manifestations. Leur nom vient de leur mode de déplacement, en bloc compact, et de leur tenue vestimentaire noire. Autonome, se dit de personnes, de groupes contestataires qui agissent en marge de toute organisation politique et qui sont partisans de l'action directe. Voilà pour le dico, et il me semble que la Convention veut que lorsqu'on parle de black bloc ou d'autonome, il est question de personnes dites d'extrême gauche. Alors je vais maintenant essayer de vous raconter une conversation que j'ai eue au village de l'eau, échange que, pour des raisons évidentes, je n'ai pas enregistré. Figurez-vous que j'ai parlé avec deux personnes du bloc, non masquées, et comme on n'entend jamais ces gens s'exprimer dans les médias, il me semble important d'essayer de vous rapporter cet échange, j'espère de la façon la plus fidèle possible, et au risque de dire des choses approximatives. Samedi 20 juillet, donc après la manifestation de La Rochelle, où ça a chauffé avec la gendarmerie, où un supermarché a été pillé, des abribus cassés, et si j'ai bien compris, des banques, des agences immobilières et des cabinets d'assurance tagués. De retour le soir au village de l'eau, je me joins à un groupe où se trouvent des gens que je connais et d'autres que je ne connais pas. Et je me retrouve face à deux personnes, a priori l'une genrée féminine et l'autre masculine. Svelte, petite trentaine, je suis biologiquement amplement assez vieux pour être le géniteur de ces deux adultes. Alors est-ce parce qu'on m'aura entendu très amèrement déplorer que des manifestants en colère aient tagué la mairie de Mel et le monument aux morts de La Rochelle, bon, ce qui à mon avis relève de la profanation, même si les monuments aux morts peuvent être aussi vus par certains comme des symboles nationalistes et impérialistes, j'ai trouvé ces tags stupides et antiproductifs pour la cause défendue. En bref, mes deux interlocutrices me font comprendre leur appartenance au Black Bloc. J'hallucine, car je n'ai jamais discuté avec des gens du bloc, ni même avec des autonomes, ou alors si c'est arrivé, bah je le savais pas, puisque ces gens ont une culture de la sécurité, du secret et du masque. Cet échange est une première pour votre serviteur, qui a l'habitude de discuter avec des syndicalistes, mais pas avec des partisanes et partisans de l'action directe d'extrême gauche. Bien que jeune comparé à un vieux gars comme moi, ces deux Black Blocs m'impressionnent par la clarté d'un discours cohérent et étayé. Ces gens-là ont déjà lu plus de livres que je n'en lirai jamais. Alors d'abord, sans pour autant désavouer les tags de leurs camarades énervés, ils me disent que leur mode d'organisation et du secret ne leur permet pas toujours de maîtriser qui se joint à leurs actions. Et pour y faire quoi ? Je ne leur demande évidemment pas de détails sur leur mode d'organisation. Puis, ils me font remarquer que, par exemple, pour une manif anti-bassine, quand il n'y a pas de police, ben il n'y a pas de Black Bloc. Quand il y a police, il y a Black Bloc. Ce que j'ai effectivement constaté sur le peu de manifs que j'ai faites avec Bassine non merci. A contrario, l'après-midi même, j'ai vu des Black Blocs protéger des manifestants lambda en faisant rempart de leur simple corps face à des professionnels de la violence d'État suréquipés. Tu sais, me dit l'un d'eux, nous sommes anticapitalistes. Notre objectif n'est pas de brûler la voiture du prolétaire ou le kebab du quartier. Par contre, le supermarché est un rouage de la société de consommation et donc du capitalisme. Et puis ces commerces sont de toute façon assurés. Quand on nous accuse de casser des abribus, nous nous en prenons en fait aux affiches publicitaires qu'on y trouve et qui poussent à une aliénante consommation de choses inutiles, voire néfastes. Affiches de pub souvent sexistes, misogynes, virilistes, qui exploitent des images de corps pour vendre et promouvoir des produits de merde en gros. Alors franchement les amis, des façades de banques, d'agences immobilières et d'assurances taguées, vous auriez envie de pleurer sur des égratignures faites à des symboles de l'oppression capitaliste, vous ? Remarque personnelle, hein, sauf peut-être pour la Maïf, assureur militant qui assurait le village de l'eau, mais à La Rochelle, je crois que la Maïf n'a pas été taguée. Or bon, n'y connaissant rien, je ne pense pas que le but politique des Black Blocs et autres autonomes consiste à défendre mes droits démocratiques comme celui de manifester. Mais c'est pourtant bien ce que font les Black Blocs en protégeant des manifs de la répression policière. J'ai aussi cru comprendre que ce qui intéresse ces gens, c'est notamment de démontrer qu'il est possible de s'opposer à une police milice du capital qui, elle, protège les intérêts de quelques grands bourgeois et autres milliardaires. Alors j'en ai profité pour remarquer que je trouvais vraiment intéressant que des personnes appartenant potentiellement au Black Bloc ou aux zadistes ou aux autonomes, enfin bon, bref, quel que soit leur nom, soient venus au village de l'eau pour partager avec tous certains de leurs outils militants, comme par exemple de la formation juridique ou un langage de signes pour manifester ensemble de façon coordonnée et faire bloc, donc. Partage de culture militante qui relève d'une sacrée démarche pour des groupes qui d'ordinaire travaillent entre eux et dans le secret, et qui ont fait là le choix de se joindre à un mouvement anti-bassine composé de gens très divers et pas forcément tous d'ultra-gauche vénère. Nos deux Black Blocs ont bien validé qu'il y avait pendant cette semaine l'envie d'une sorte d'union révolutionnaire avec toutes les forces en présence, même si dans le mouvement bah, il reste et restera des divergences d'analyse, mais choix de sortir de l'entre-soi, fédéré et en faisant peut-être des compromis. Bon alors je vous avoue, comme cette conversation se passait trop bien, j'ai quand même ressenti le besoin idiot de saboter le moment. Et j'ai donc commis une farce avec laquelle j'ai déjà attrapé du zadiste du bocage nantais. Je leur ai dit, mais si je comprends bien, vous défendez la chose publique. Ben oui, qu'ils m'ont dit. Ah ah, que je leur ai répondu. Vous savez comment chose publique se dit en latin et quel mot l'expression a engendré. Et elles ont tout de suite percuté et m'ont dit en rigolant un peu jaune, ah non là, alors là t'arrêtes, t'es relou là. Ce qui était vrai. Et après cordiale salutation, les deux révolutionnaires ont disparu dans la nuit de la campagne poitevine.
Prérogative d'interdire la fête, nous sommes nés pour marcher sur la tête des préfets.
Leur prérogative d'interdire les fêtes, nous sommes nés pour marcher sur la tête des préfets.
À force de nous emmerder, les rois finissent, à force de nous emmerder, les rois finissent décapités.
À force de nous emmerder, les rois finissent, à force de nous emmerder, les rois finissent décapités.
Tous les 5 ans, on se demande lequel élire, on préférait de loin choisir lequel auxir.
Tous les 5 ans, on nous demande lequel.
À force de nous emmerder, les rois finissent, À force de nous emmerder, les rois finissent décapités.
À force de nous emmerder, les rois finissent. À force de nous emmerder, les rois finissent décapités.
Paraît que c'est pour notre bien, les méga bassines, on le leur rendra bien, un grand coup de guillotine.
Paraît que c'est pour notre bien, les méga bassines, on le leur rendra bien, un grand coup de guillotine. À force de nous emmerder, les rois finissent, À force de nous emmerder, les rois finissent décapités.
À force de nous emmerder, les rois finissent, À force de nous emmerder, les rois finissent décapités.
Quand c'est pas la crise, c'est la fin de l'abondance, comme un appel à mettre un terme à leur décadence.
Quand c'est pas la crise, c'est la fin de l'abondance, comme un appel à mettre un terme à leur décadence.
À force de nous emmerder, les rois finissent, À force de nous emmerder, les rois finissent décapités.
À force de nous emmerder, les rois finissent,
Force de nous emmerder, les rois finissent décapités.
Et voilà les amis, c'est avec cette petite histoire que prend fin cet épisode de notre série Village de l'eau, à télécharger sur notre site polymixetlavoixoff.com. J'espère que ce récit n'a ni offusqué ni trahi la parole de personne. On se retrouve très bientôt sur votre radio libre préféré, ce n'est qu'un combat, continuons le début.
Il y a quelque chose dont on doit tous s'enjailler à l'heure qu'il est, c'est que grâce à toute l'énergie qui a été donnée dans cette vallée de l'Argentière pendant une semaine, grâce aux camarades qui ont traversé les frontières et qui étaient sur scène ici, et ceux qui ont été à nos côtés dans les cortèges, le monde entier sait que les méga-bassines, c'est de la merde.
Mabassarane.